Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Avant de nous intéresser à ce qui se passe à la collégiale Saint-Gingoux de Toul, je vous propose de rejoindre par téléphone Franck Nathan, le directeur artistique de l'ensemble Stanislas Nancy, pour évoquer le prochain concert de l'ensemble, le dimanche 18 janvier à 16h30, salle Poirel. Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir Dominique et bonsoir aux éditeurs d'RCN.
Voilà, alors, concert suivant, donc ça se passe toujours bien. Hein, les premiers concerts ont eu un bel écho artistique et populaire, hein, on peut dire.
Merci, oui, en effet, on a pu avoir une fréquentation et puis des rencontres très intéressantes pour ces deux premiers concerts en 2025. Et puis voilà, nous sommes sur donc le premier concert de rentrée de 2026. Avec un programme avec à la fois le quintet avant et le quatuor à cordes.
Alors, ils ne seront pas en battle cette fois-ci.
Alors, non, cette fois-ci, on ne sera pas en battle. le programme des uns va compléter les autres. Et notamment, c'est le quintet avant qui ouvrira le concert avec les Bagatelles de Ligeti.
Il faut dire que le titre, c'est « Héritages et ruptures ». Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce titre ?
Oui, alors, comme toujours, les compositeurs se sont inspirés de ce qui a pu être écrit auparavant. Et là, si on parle par exemple de ces bagatelles de Ligeti, Ligeti, lui, s'est inspiré de cette forme des bagatelles, qui sont des pièces courtes, des formes brèves, notamment Beethoven a écrit des bagatelles pour piano, voilà. Mmh. Et donc, au moins sur la forme, il s'en est inspiré. Et puis, il y a surtout aussi l'aspect musical, clairement l'influence de Bartok avec des rythmes incisifs et une énergie populaire. Donc là, ce sera les vents qui vont commencer ces concerts. Mmh. Et nous, avec le quatuor à cordes, nous continuerons avec Johannes Brahms et son premier quatuor à cordes. Alors là, pareil, en termes d'héritage, Brahms a mis du temps avant d'écrire son premier quatuor à cordes, sans doute avec par rapport au poids des quatuors classiques de Haydn, Mozart et surtout de Beethoven.
Oui, ça doit être un peu impressionnant quand même d'avoir des tels devanciers.
Bien sûr, et quel compositeur du 19e n'a pas été marqué par ce monstre sacré qui était Beethoven et toutes ses formules innovantes. Et Brahms, du coup, il a fini par écrire ses premiers quatuors en do mineur, qui est structuré, mais quasiment comme une symphonie, comme sa première symphonie, qui est d'ailleurs, elle aussi, en do mineur, sans doute pas du au hasard. Mais lui, c'est une écriture, on va dire, plus resserrée, avec une complexité rythmique encore plus développée, et puis des tonalités vraiment à foison. C'est une musique aussi, par contre, peut-être moins démonstrative, plus de l'intérieur. Mmh. Voilà, c'est sa patte à lui. Et on retrouve bon nombre de cellules qu'il utilise dans ce quatuor, dans sa première symphonie, évidemment, mais aussi, par exemple, le concerto pour violon, une formule rythmique très forte. J'en parlerai d'ailleurs pendant le concert. Je ferai une brève présentation de ce quatuor à cordes. Et puis, le quintet avant terminera le concert avec le tombeau de Couperin dans la version pour quintet avant de Maurice Ravel. En termes d'héritage, Ravel, lui, il rend hommage à la musique baroque française, et notamment à Couperin, bien évidemment. Mmh. Mais sa musique, ses harmonies et la couleur instrumentale du quintet avant sont résolument modernes. C'est vraiment les couleurs de Ravel. Il est baigné dans ce courant néoclassique, un matériau complètement renouvelé par rapport à l'utilisation de thèmes ou de consonances baroques. Et puis il y a un double hommage qu'il rend, c'est-à-dire que chaque mouvement correspond à un ami, un hommage à un ami qu'il a perdu malheureusement pendant la Première Guerre mondiale.
D'accord. Voilà. Ouais, ouais.
Mais la musique n'est pas du tout triste. C'est un bel hommage et un beau travail d'écriture. Et là, le quintet avant donnera cette pièce-là pour terminer le concert. Alors, et à l'issue du concert...
Voilà, oui. J'allais y venir, mais je vous laisse en parler.
on profite de la saison pour pouvoir proposer au public une part de galette des rois. Voilà, on la partagera à l'issue du concert dans ce hall de cette magnifique salle Poirel. ce sera, je l'espère, un moment convivial pour échanger avec le public aussi.
Voilà. Très bien. Eh bien, merci Franck. On se retrouve le dimanche 18 janvier, 16h30, salle Poirel. Et d'ici là, portez-vous bien, comme on dit.
Ben, c'est très bien à vous. Je me permets juste de rappeler très rapidement que pour réserver les places, ça se passe sur le site de Poirel, poirel.nancy.fr. Autrement, une dernière petite chose, on a une petite offre promotionnelle sur nos concerts d'abonnement, un abonnement de 3 concerts, pardon, dont ce concert du 18 janvier, le 16 mars et le 1er juin. Encore valable jusqu'à 2-3 jours encore. L'offre promotionnelle est à 42€ pour les 3 concerts. Voilà, ce qui nous semble très accessible.
C'est tout à fait accessible, effectivement. Très bien. Ouais. Eh bien, on espère que vous aurez plein de monde une fois de plus. Et puis, à bientôt.
Nous l'espérons. À très bientôt.
Au revoir.
Et merci aux auditeurs d'RCN. Au revoir.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Il y a parfois dans la vie des cadeaux qui vous tombent du ciel. C'est ce qui vient d'arriver à la paroisse Saint-Mansuit du Toulois et plus précisément à la collégiale Saint-Jean-Goux de Toul. Bon, il ne s'agit pas d'un legs tel qu'a pu l'être celui qui fut fait à Saint-Nicolas-de-Port par Madame Crouet-Friedman et qui a permis de restaurer en grande partie la basilique. Mais il s'agit pour Saint-Jean-Goux d'un don qui va apporter un plus aux liturgies de cette église. Vous avez deviné, on parle du don d'un orgue. Alors quand je dis orgue, on imagine tout de suite des tuyaux, mais là, il s'agit d'un instrument numérique. Et pour nous parler de cette aventure peu commune, je reçois Pascal Vigneron, bien connu comme directeur du Festival Bach de Toul, et Jacques Puy-Barreau, qui n'est pas pour rien dans ce cadeau. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Dominique.
Alors, rares sont les endroits où l'on peut entendre le répertoire pour orgue et orchestre du fait de la complication des choses entre un orchestre dans le cœur d'une église et l'orgue souvent à l'autre bout et à une telle distance telle que faire de la musique devient vite très compliqué. Alors une solution, c'est ce genre d'instrument qui peut rendre le service. Et voilà ce que l'on pourrait entendre.
Thank you.
C'était le final de la première symphonie pour orgue et orchestre d'Alexandre Guilmant. Alors Pascal Vigneron, avant de nous raconter cette belle histoire de l'arrivée de l'instrument à Saint-Jean-Goût, parlez-nous un peu de cette collégiale.
Alors la collégiale Saint-Jean-Goût est la deuxième paroisse après la cathédrale. Elle n'en est pas moins très belle, avec un très beau buffet d'orgue et un très beau vitrail qu'on peut voir sur le flyer qui a été reconstitué, parce que j'ai réussi à retrouver une photo de 1971 avec le vitrail implanté. Mmh. Et comme la rosace est descendue, enfin, la pierre s'est affaissée, en 1991, le vitrail a été déposé. Il se trouve à la tribune du grand orgue de la cathédrale. Il est dans des caisses, donc il est intact. Et là, j'ai pu reconstituer le vitrail. Alors, c'est un gros travail de graphisme. Et donc, on voit exactement à quoi ça ressemblait. Mmh. Avec le buffet que j'ai pu aussi bien nettoyer. Voilà. Et donc, cette collégiale, alors Saint-Jean-Goût, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le patron des cocus. Voilà.
Ben oui.
Voilà, ça arrive.
Ça arrive.
Et c'était en fait la paroisse des prêtres, puisque l'évêché avait la cathédrale. Hein, donc c'était bien séparé. Et puis elle était, elle est plus petite, mais alors la voûte est très belle, c'est très belle architecture, et le cloître surtout, qui est un cloître absolument fantastique. Voilà, donc voilà Saint-Jean-Goût, si j'en dis quelques mots. Et le grand orgue, malheureusement, est extrêmement fatigué, il est vraiment à bout de souffle. On peut le jouer, mais pas pour des concerts. Ouais. Donc on a eu l'opportunité, avec mon ami Jacques Puvarot, qui est ici présent, de pouvoir... Jacques a pu faire un don à la ville, puisque le bâtiment est communal. Il a fait un don à la ville de cet orgue numérique. C'est un orgue à laine, très beau modèle. Et on va en parler plus avant, mais au moins, on a pu maintenant mettre en place, on aura deux endroits pour des concerts de prestige au niveau du festival.
Voilà, alors, autre genre de répertoire orgue et orchestre que l'on pourra entendre, c'est un concerto de Georg Friedrich Händel.
Thank you.
C'était le premier mouvement du concerto en si bémol pour orgue et orchestre de George Friedrich Händel dans l'interprétation de Lionel Rogue et du Collegium Academicum de Genève dirigé par Robert Dunant.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Jacques Puybarreau, cet instrument qui arrive à Saint-Jean-Goux, vous le connaissez bien puisque vous en êtes l'heureux donateur. Vous pouvez nous en parler ?
Mais oui, absolument. Alors cet orgue a une histoire qui est d'abord l'histoire de l'orgue pour moi qui a commencé très tôt. Très tôt dans ma plus tendre enfance, j'ai été attiré par l'orgue comme étant un instrument absolument éblouissant. Et je n'ai eu de cesse à ce moment-là, je crois que j'avais 6 ans, que de vouloir en jouer, mais je n'en étais pas capable. J'ai donc fait du piano et puis après un certain nombre d'années, j'ai pu enfin commencer l'orgue. Et en fait, j'ai fait de l'orgue de façon assez intense, mais en même temps, j'ai été intéressé beaucoup par d'autres sujets tels que la technique et la technologie en particulier. Mmh. Et j'ai donc fait de parallèle des études d'informatique, tout en continuant à faire de l'orgue. Et j'ai pris l'option de garder les deux et de faire de l'orgue une activité que je qualifierais plutôt d'amateur, avec un certain éclairage, tandis que je menais une carrière d'informaticien qui m'a amené à circuler dans le monde entier de façon très captivante, mais sans jamais perdre de vue le fait de faire de l'orgue. Et si je remonte à il y a un peu plus de 10 ans, j'ai pu et j'ai eu envie d'avoir à la maison un instrument important. Il n'était pas pour moi question d'acheter un orgue à tuyaux d'études parce que je pensais qu'un orgue à tuyaux d'études allait être forcément limité dans sa capacité. Mmh. J'aimais beaucoup la musique symphonique, la musique romantique. J'ai un peu tout travaillé dans ce répertoire-là. Et je pensais que le faire de façon plaisante sur un instrument à tuyaux n'aurait pas tellement de sens à la maison. Et j'ai donc, sans doute, avec une certaine réserve à l'égard de certains puristes, opté sans hésitation en fait, pour un orgue numérique qui allait m'apporter à la fois l'instrument de travail, mais également la satisfaction de pouvoir entendre des sonorités de grands instruments et de pouvoir faire à la maison ce que je rêvais d'entendre et que je n'avais pas dans l'église du lieu où j'habitais à cette époque-là, car il n'y avait plus d'orgue. L'orgue à tuyaux qui était en tribune, que j'observais, ne fonctionnait plus. Mmh. Dans cette église à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, il y avait donc un orgue à laine. Et je me suis, de mon côté, acheté cet instrument qui est en fait un instrument d'église. Mmh. Et qui était presque de l'ordre d'un caprice, parce qu'installer un instrument d'église dans un domicile, c'était quand même assez particulier. Mais on l'a fait, et j'en ai eu une très grande satisfaction au cours de toutes ces années. Et en 2016, c'est une autre idée qui a germé dans mon esprit, et celle de faire construire un orgue à tuyaux dans cette église pour remplacer l'orgue de tribune qui ne fonctionnait plus. On a réalisé un projet extrêmement captivant et on a aujourd'hui un très bel instrument de taille modeste, mais un instrument de 3 claviers, 25 jeux, qui est maintenant en tribune dans l'église Saint-François de Sales à Saint-Maur. Donc. Et c'est à ce moment-là que, à la fois attiré par l'instrument de la tribune et cet orgue d'église que j'avais à la maison, qu'a commencé à germer l'idée que cet orgue n'était pas nécessairement à sa bonne place et que, dans la mesure où j'avais cet orgue de tribune, je pouvais réfléchir à un futur plus adapté pour cet instrument. J'ai des enfants, 2 enfants qui font beaucoup de musique, mais qui, contrairement à moi, ne sont pas de grands passionnés d'orgue. Je peux le comprendre car ils adorent le piano, et moi aussi. Et donc j'ai pensé que cet instrument aurait un avenir meilleur en dehors de la maison. Et je me suis mis en quête, en fait, au travers de mon réseau d'organistes et d'amis, d'essayer de trouver un endroit où cet orgue pourrait servir. Et dans mon idée, il fallait qu'il puisse être utilisé à la fois pour la liturgie, en tant qu'instrument liturgique d'église, et qu'il puisse être aussi un instrument pour des élèves éventuellement cherchant un instrument pour travailler, et aussi un instrument pour de la musique de concert dans toutes ses formes. Et si je veux faire une histoire à peu près courte,
On a le temps, vous pouvez développer. Bon,
l'histoire, est, je la fais courte parce qu'effectivement, dans notre réseau d'organistes, dans lequel je navigue quand même un petit peu, même si je reste qu'un amateur, est arrivé dans le champ de vision Pascal. Nous connaissions pas. J'avais entendu parler de Pascal, notamment par l'intégrale Messiaen qui avait été faite à oui. Toul. Mmh. Et en particulier où les élèves du conservatoire de Saint-Maur, dont je suis très proche, avec leur prof, leur éminent professeur Éric Lebrun. Et donc je connaissais Pascal. Et effectivement, nous avons été mis en relation l'un l'autre. Et Pascal m'a montré de façon très énergique, une énergie que désormais je lui reconnais, de vouloir effectivement profiter de ce don, si je le faisais, pour développer le rayonnement culturel de la ville de Toul. Enfin, Pascal avait un projet qui, à mes yeux, correspondait à cette intention de pérenniser cet instrument et de lui rendre sa vraie place, qui est celle d'une église. Et en fait, c'est ce que nous avons fait. Et tout ça s'est fait de façon assez rapide, bien que la réflexion pour moi de faire cette démarche n'était pas évidente et que j'ai quand même pris mon temps pour savoir exactement où et avec qui faire cette opération. Alors on a fait ça, on a commencé il y a un an à peu près, dans les premiers contacts, j'étais encore en hésitation, et puis plus récemment, il y a maintenant un petit peu moins de six mois environ, et là les choses se sont accélérées, parce qu'elle a été très vite, l'engagement a été formalisé, et je suis enchanté de découvrir une ville de Toul avec des personnes mobilisées, intéressées, et j'ai l'impression que l'orgue va trouver une nouvelle vie, peut-être encore plus épanouissante que celle qu'il aura eue jusqu'à présent avec moi.
Donc vous n'avez plus d'orgue chez vous ?
Alors je n'ai plus d'orgue chez moi, je ne vais pas non plus rester comme ça éternellement, mais dans l'intention de me doter de quelque chose, ça sera un tout petit instrument de travail qui restera un instrument numérique, mais dont sa seule vocation sera de me permettre de préparer les pièces. Et c'est ce que je suis en train de chercher à construire, en fait.
Voilà. D'accord. Ah, le construire, carrément.
Oui, alors c'est une construction parce que les orgues numériques d'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en faire une partie soi-même. Il y a une composante informatique importante, évidemment, mais pas que. Et en connaissant encore assez bien tout cet environnement, oui, il s'agit d'une co-construction avec des professionnels pour la fourniture de la partie dite console, les claviers, etc., car je veux quelque chose qui marche vraiment bien et qui soit aussi fidèle que possible aux dispositions d'une console d'orgue. Mmh. C'est vraiment pour le travail et pour être capable de reproduire à l'identique les sensations qu'on peut avoir au niveau des claviers et pédaliers sur l'instrument. Donc, c'est là où il faut s'adresser à des professionnels, mais une partie de sa construction, je me la réserve.
D'accord, j'imagine que c'est la partie informatique.
Exactement.
D'accord.
Celle-là, elle est déjà prête, d'ailleurs, on va dire.
Alors, c'est un beau cadeau, Pascal.
Oui, c'est formidable, surtout pour le développement du festival. Personnellement, j'ai mes instruments.
Ben oui.
Maintenant que je vais habiter de plus en plus en Normandie, j'ai accès même à la cathédrale à Rouen. Bon, ça, c'est Jacques Olavet, hein, oui. Même la même console que Baccarat, d'ailleurs, mais en plus grand. Et très curieux. Enfin, il y a Saint-Ouen, là, il y a des concerts prévus à Saint-Ouen avec les Goldberg. Bon, là, j'ai pas tellement de problèmes. Puis maintenant, j'ai mon studio avec mon propre orgue dedans, qui est un Allen aussi, d'ailleurs. J'ai voulu aussi mettre un orgue numérique, parce que dans un studio, il faudrait passer sa vie à accorder, alors que les gens qui viennent enregistrer, s'ils ont besoin d'un bourdon, c'est juste un complément, c'est pas... On n'est pas... Voilà. Alors, c'est un beau cadeau, ça permet de faire maintenant évoluer le festival vers d'autres cieux, notamment... Comme cet orgue a été plus ou moins quand même fait, je dirais pas sur mesure, mais pratiquement, il est quand même bien pour la musique symphonique.
Oui.
Voilà. Et ça fait un complément à l'orgue de la cathédrale, qui est lui D'accord. pour le baroque et le moderne. Et là, on a le symphonique. Donc ça sonne vraiment très très bien.
Alors, ça ne veut pas dire que l'idée de refaire un orgue à tuyaux à Saint-Gingoux a disparu.
Non, mais le problème est le suivant. C'est que la rosace a été a bougé. Et donc, pour refaire l'orgue, il faut enlever toute la rosace. Tout l'orgue, tout le sous-bassement de l'orgue, c'est un projet à 4 millions d'euros.
D'accord.
Donc, est-ce que je
c'est
le verrai
pour demain hein.
Oh, je pense que je ne verrai pas ça de mon vivant. Ouais. Non, non. Donc, en attendant, bien entendu. Alors, ce qui serait d'ailleurs formidable, c'est que maintenant, on peut hybridifier un orgue à tuyaux, c'est-à-dire on pourrait garder l'orgue de Saint-Jean-Goux avec les jeux qui sont dedans, le relier avec l'orgue à laine et les compléments.
Un hybride. Serait...
Ah oui, oui, ça. On peut faire ça. Donc, tout est possible. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de hier à ce niveau-là. Hein. Et d'ailleurs, dans mes propos qui seront notifiés dans le programme du 18 janvier, je commence mes propos comme ceci. L'orgue numérique est-il un ennemi ou quelque chose contre l'orgue traditionnel? C'est autre chose, c'est un prolongement. Ce n'est pas quelque chose qui est contre l'orgue à tuyaux. Je défends cette position parce que j'ai trop entendu depuis 40 ans qu'il n'y avait que l'orgue à tuyaux. Bien entendu qu'il y a l'orgue à tuyaux, mais dans une salle où il n'y a pas d'orchestre, dans des lieux où il n'y a pas d'orchestre, et quand il faut jouer à 444, qu'est-ce qu'on fait? On réaccorde tout l'instrument? Non, il faut avoir un peu plus d'ouverture et savoir que quand c'est bien fait, d'ailleurs à Nantes, non, à Angers, il y a un orgue hybride qui est formidable. C'est d'ailleurs Bernard Dargassi qui a fait la partie tuyauterie. Donc ça prouve que ça peut marcher. Donc il faut aller vers des choses, disons, plus sereines. Voilà. Mais c'est un très beau cadeau pour la ville et ça va permettre le développement du festival.
Bien, ben on va écouter justement cette alliance, cet alliage entre l'instrument numérique et l'orchestre avec un arrangement que vous avez fait de l'Adagio de la 3e symphonie de Louis Vierne qui est interprété par l'orchestre de la Garde républicaine
de la Police nationale. Et pardon, alors, voilà.
Voilà. C'était donc l'adagio de la troisième symphonie pour orgue de Louis Vierne, arrangée dans une version orgue et orchestre d'harmonie. Pascal Vigneron est à l'orgue et c'est l'orchestre de la police nationale avec lequel il dialogue. Alors vous nous disiez, Pascal, hors antenne, que l'enregistrement avait été fait à Notre-Dame du Liban et qu'il y avait toute une histoire à côté de l'orgue.
Ah oui, alors on fait tout un... comment dire, pas un plat, j'aime pas ce mot. On fait toute une histoire de l'orgue numérique. Alors l'orgue numérique, en fait, il a commencé en France dans les années 30. Et il y avait eu un orgue comme ça, qui s'appelait l'orgue des ondes, qui avait été installé à Notre-Dame du Liban. Alors on ne sait pas, personne n'a de trace. Hein. Moi j'ai les photos. C'était un orgue électro-synthétique, avec des lampes. C'est un procédé, d'accord. Il y avait 700 lampes.
Oui.
Il y avait 700 lampes qui donnaient tous les sons. Et il y avait une console de 4 claviers avec des tirants. Et c'est Louis Vierne et Maurice Durufflé qui l'ont inauguré. J'ai même une photo. Il y a eu 4 modèles qui ont été faits. Il y a un autre modèle qui était dans la banlieue nord de Paris. Je ne sais plus où c'était. Pantin. Non, c'était pas Pantin. C'était vers le Bourget. Il y a même une photo où il y a le maréchal Pétain qui était venu voir l'instrument.
D'accord.
Et tout ça, c'était dans les années 30. Donc... on était quand même novateurs hein, sur cette chose. Et donc, à Notre-Dame du Liban, on a fait cet enregistrement de cet adagio. Et cet adagio, c'est Michel Chapuis, je ne vais pas l'imiter parce que sinon on va passer la journée, qui m'avait donné la partition d'orchestre de chez Durand. Et j'avais eu, en voyant la partition d'orchestre, et il m'avait dit « Ah oui, bah c'est épatant cette musique-là ». Il l'avait donné à Joux. Et c'est moi qui avais eu l'idée de le transcrire pour Orchestre d'Harmonie. Parce que l'Orchestre d'Harmonie a ceci de particulier, c'est que c'est des vents. Et avec un orgue qui est un instrument à vent, ça, il y a une liaison un peu logique dans la musique. Voilà, donc c'est tout... quand on prend l'histoire de toutes ces choses, il y a de quoi... Voilà, donc tout ça, c'est logique. Donc, alors, l'instrument qu'on a entendu là, dans la pièce de Vierne, là, c'est le Virtualis, donc Obwerk Virtualis, qui est là mon instrument itinérant en 3 claviers, qui est plus facile à... Alors, il y a des enceintes, on le met où on veut, même en plein air, on peut faire des choses quand même assez fantastiques.
Donc, on revient à Saint-Jean-Gou. Les enceintes seront placées à la tribune, je suppose ?
Elles sont placées à la tribune.
Oui.
Derrière la rambarde, on les voit à peine.
Oui.
Et ça sonne vraiment très, très bien.
Le principe du son numérique, Jacques, c'est quoi ?
Eh bien, en fait, le principe du son numérique, alors, par opposition aux instruments tels que celui dont Pascal vient de parler, où la synthèse du son est faite par des circuits électroniques, on appelle ça des circuits oscillants, qui reproduisent des ondes, en fait des ondes électriques qui se traduisent ensuite en ondes sonores. Ça, c'est l'orgue, j'allais dire, artificiel, hein, à partir de sons artificiels, et on recompose avec des harmoniques les sons pour leur donner des timbres. Mais ce n'est pas toujours très évident. L'avènement du numérique a permis de faire un procédé de façon très, très, très différente, consistant tout simplement à enregistrer des sons de tuyaux réels, on appelle ça les numériser, c'est-à-dire transformer le son d'un tuyau pris avec un micro conventionnel, le transformer en une empreinte numérique qu'on est capable de stocker dans des mémoires et ultérieurement restituer le son dans le procédé inverse où à partir de l'empreinte numérique, on recrée le son analogique correspondant. Et si on a une chaîne de transformation adéquate et de bonne qualité, on est capable de restituer les sons à des niveaux de qualité qu'il est bon de comparer avec un CD de musique. Et c'est en général ça ce qu'utilisent les orgues numériques et parfois même vont au-delà de cette qualité-là. Un orgue numérique va utiliser un procédé comparable en termes de conversion de support entre le son réel et le CD lui-même. Qui va être ensuite restitué par l'appareil, eh bien, l'orgue numérique va faire ça, sauf que chaque son va être déclenché par le clavier et la juxtaposition des jeux comme on le fait dans un orgue réel. Donc, si sur un orgue numérique, on a 50 jeux, ça veut dire qu'on a 50 fois les enregistrements de chacun des jeux. Et plus l'instrument est de qualité, plus on enregistre des sons un par un, et c'est le cas des orgues Obwerk, où on prend chaque son individuellement, sans aucun traitement.
Est enregistré.
Alors, on le prend évidemment sur une certaine longueur de séquence, qu'on va ensuite reproduire, puisque le principe d'un orgue, c'est quand on appuie sur la touche, le son se produit. Donc il y a une phase où le son s'installe, on appelle ça la montée. Ensuite, il y a le régime permanent où le son s'installe. Tant qu'on a la note enfoncée, le son parle, mais le son vit. Un tuyau sonore a une espèce de vie, ça veut dire que les vibrations ne sont pas totalement régulières. Il y a des anomalies, mais qui créent une certaine qualité du son. Et cette anomalie est enregistrée et elle est également restituée dans les orgues numériques de grande qualité. Voilà, donc un orgue numérique, c'est une énorme, énorme mémoire de son réel enregistré avec le plus grand soin possible et pour être restitué sous les doigts de l'organiste comme sur un instrument conventionnel.
Voilà, c'était la minute technique de Jacques Puybarreau pour Tempo Classique. Merci Jacques pour toutes ces précisions. Alors Pascal, quelques infos sur le prochain festival BAC.
On peut d'abord le concert du 18 janvier, déjà, avons Jacques qui va jouer, Gilles Daburon qui est l'organiste de Saint-Jean-Gou. Et puis nous aurons un petit phénomène qui s'appelle Apolline Pinard, qui est venue pour l'inauguration le 18 octobre dernier de mon studio Pierre Cochereau en Normandie. Et c'est une élève d'Éric.
Éric Lebrun, professeur au conservatoire de Saint-Maur.
Mais c'est vraiment un phénomène. Elle a 14 ans et je lui ai dit, quand elle est venue pour l'inauguration, je lui ai dit, écoute, ça serait bien que tu joues. Il y a eu 3 concerts dans la journée. Alors Marie-Pierre Cochereau était là, Brigitte Fossé, plein de mes amis de l'ensemble intercontemporain. Et je lui ai dit, écoute, ça serait bien que tu joues du Dupré, parce qu'il y avait Dimitri Vassik, elle a qui ça jouait un prélude de Dupré. Les fins du prélude qu'on ne joue jamais, qu'on n'entend jamais, qui est absolument prodigieux, ça serait bien qu'il y ait une pièce de Dupré. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais jouer la crucifixion ? Elle n'avait jamais travaillé. Mais Eric me dit, tu vas voir, en 4 jours, elle met en place. Bon. Et puis elle arrive la veille, elle voulait voir l'instrument. Alors, mon instrument est un peu plus vieux que celui de Jacques, c'est un 3 claviers Allen, mais il est un peu plus classique de conception sonore. Et puis je lui dis, mais tu l'as écouté par qui ? Alors elle m'a donné le nom de l'interprète, je ne dirai pas. Je lui dis, mais écoute-la quand même, écoute la version de 76 de Pierre Cochereau. Et le lendemain, pour le jour du concert, est arrivé, j'ai écouté la version, je vais jouer comme ça. Ah, et elle a joué, c'était formidable.
Donc elle sera là.
Elle sera là, et depuis 16 ans, j'ai toujours voulu qu'il y ait le jeune, soit on mette le pied à l'étrier au jeune, et là, elle sera là. Elle va jouer donc la crucifixion et la romance de la 4e de Vierne.
D'accord.
Voilà. Et alors ça, c'est le 18 janvier. Et puis après, on saute aux concerts scolaires qui seront au mois de mai. On n'a pas encore choisi. On va essayer de faire l'histoire du soldat. Pas très simple, très compliqué au point de vue finance. Et après, on saute au premier concert du premier week-end de
juillet.
Alors là, le premier concert, ça sera tout sauf Bach.
D'accord.
Ça va être tout sauf du Bach. Un pianiné, hein. Et il y aura même de la musique de film, et ça va être arrangé pour cordes et orgues, avec Out of Africa, Take Five. Enfin, il y aura des choses très importantes, mais on aura aussi du Corette, du Handel, et il y aura l'Adagio, la symphonie de Saint-Saëns. J'ai une version que j'ai trouvée pour cordes et orgues qui sonne admirablement bien. Donc c'est très varié. Ensuite, on a des cuivres, on aura les Sasa Schum, qui est revenue l'année dernière, elle revient pour jouer les Partita et les Chaconnes de Bach. Il y aura les suites pour violoncelle. Les 4 premiers week-ends du mois d'août, ce sont les jeunes organistes des 8 classes. Un récital de piano. Le 6 septembre, le Requiem de Duriflé. Alors là, ça sera le virtualiste qui sera en bas à la cathédrale avec Denis et Elvis Cour. Loïc Mallier qui vient faire un hommage sur la Passacaille. Et je finirai la saison avec le premier concert de la tournée en hommage à Michel Chapuis et Jacques Maréchal, avec les chants hassidiques de Maurice Ravel. Et c'est un concert où le bénéfice va pour la synagogue de Toul. Et puis les variations Goldberg. Alors Goldberg, les synagogues. Voilà, ça correspond bien. Voilà les grandes lignes du festival.
Bon, bah écoutez, on a appris plein de choses aujourd'hui. On a des nouveautés. On a appris un peu de technique instrumentale. Alors merci à Jacques Puybarreau et à Pascal Vigneron d'avoir passé cette heure avec nous. On se quitte en musique avec le In Paradisum du Requiem de Forêt, dans une interprétation plutôt extraordinaire, d'après Jacques, du Trinity College de Cambridge, dirigé par Stephen Layton, avec à l'orgue Harrison Cole, et ça se passe à Saint-Eustache, à Paris. C'était In Paradisum, le dernier mouvement du Requiem de Maurice Duruflet, dans l'interprétation du Trinity College de Cambridge, dirigé par Stephen Layton, à l'orgue Harrison Cole, et tout ça se passait à Saint-Eustache, à Paris. Quelques annonces pour terminer. Ce samedi 17 à 17h15, ainsi que le dimanche 18 à 15h15, les concerts de l'atelier proposent un concert par le gambiste Mathieu Joubert-Caillé et le claveciniste Philippe Grisvard. Donc c'est à Novian-au-Pré, dans les ateliers du facteur d'orgue Jean-Baptiste Gopilla. Et puis le dimanche 18 à 16h30, salle Poirel, concert de l'ensemble Stanislas Nancy, intitulé « Héritages et ruptures », avec les quintettes avant de Giorgi Ligeti, Maurice Ravel, et le quatuor à cordes de Brahms, quatuor en do mineur, opus 51. Et puis donc rappel de ce concert à la collégiale Saint-Jean-Goux de Toul, concert de la nouvelle année qui célèbre l'installation de l'orgue numérique avec un programme divers et varié. Et puis une info qui fait bien plaisir à tout le milieu musical nancéen, c'est la nomination d'Aline Dubuis-Figel comme directrice musicale du Gradus Ad Musicam, donc le chœur et l'orchestre. Elle prend la succession de François Leger et on a déjà eu le plaisir de recevoir Aline au micro de Tempo Classique pour parler de l'école de musique de Blénou-les-Pont-à-Mousson et puis nous parler aussi de la musique qu'elle fait avec Bernard Devienne, dont elle dirige les œuvres, enfin une partie des œuvres. Et puis une autre nomination dont RCN se réjouit, c'est la nomination au poste d'organiste titulaire de l'église Saint-Léon de Nancy de Johan Turpin, qui anime l'émission des baguettes à la manette avec notre ami Joris. Alors on lui souhaite un long parcours parce que les prédécesseurs de Johan, y en a un qui est resté 50 ans, il s'appelait Robert Barthes. Et puis j'ai pris la succession de Robert Barthes, je suis resté 35 ans, donc Johan, tu as quelques années devant toi pour t'exprimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute de RCN. Bonsoir.